Digne héritière de l'illustre Sigmund, je suis heureux d'accueillir Madame Michelle Freud.
Merci. Bonjour. Chaque auteur, chaque conférencier, en général, traite d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. En ce qui me concerne, les histoires de mots du corps, pour moi, ce sont des histoires de cœur. Et je crois qu'il y a entre le corps et moi une longue histoire de cœur. Pendant des années, je me suis battue contre ce corps. Et j'ai commencé réellement à me réconcilier avec lui lorsque j'ai commencé à l'aimer. C'est d'ailleurs le thème du dernier ouvrage qui a paru chez Albin Michel. Mais j'ai surtout compris que je pouvais dépasser le poids des mots du corps, peut-être d'une histoire transgénérationnelle, c'est-à-dire le poids d'un nom. Et j'ai réussi à le dépasser, bien que... Alors, pour la petite histoire, ce matin, en quittant l'hôtel, Psychanalyse Magazine m'avait fait un joli badge avec mon nom, et je l'ai perdu. Alors, on m'a fait un très très joli badge. La talentueuse personne qui fait des si jolis dessins m'a marqué sur mon badge « Moi, rien que moi ». Donc mon nom, vous l'oubliez le temps de cette conférence, parce que je vais vous parler des mots du corps, des miens, des vôtres, des mots du corps que nous véhiculons. Notre éducation, en effet, nous a appris à ravaler nos larmes, à taire toute notre colère, nos émotions. Nous avons subi toutes sortes de pressions, pressions familiales, sociales. Bref, finalement, nous avons réagi à tout cela en nous taisant. Hein, tais-toi, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nous avons enfui ces émotions, nous nous sommes conformés, je dirais même aussi déformés, puisque nous ne pouvions faire confiance à ce que nous ressentions, eh bien, on s'est tu, hein, on s'est complètement plié et même replié, atteint la plupart du temps de ce fameux syndrome d'Atlas. Vous savez, l'image d'Atlas qui porte tout le poids du corps sur ses épaules, eh bien, finalement, à force de porter ce poids, eh bien, de porter toutes ces douleurs, notre corps a réagi en raideur, en douleur, etc. Nous portons souvent dans notre sac à dos un certain nombre d'effets, je dirais, qui quelquefois ne nous appartiennent même pas. Et là, il est important d'arriver à faire le tri dans ce que nous portons. Hein, quelquefois dire, tiens, il y a, je porte des choses, mais ça, ça ne m'appartient pas vraiment, ce n'est pas à moi. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à faire le ménage dans ce sac, on se rend compte qu'on véhicule beaucoup de choses. Nous sommes avant tout des êtres de langage. Nous avons besoin de dire les choses. Et comme nous n'arrivons pas à les dire, souvent, eh bien, c'est notre corps qui va être le support de ce message, qui va se charger, lui, de dire à travers un symptôme, à travers une douleur. Notre corps n'oublie rien. Il garde la trace de beaucoup de choses, et notamment, nous sommes sans immunité quelquefois contre certaines paroles, certaines choses qui ont été dites, qui nous ont été transmises, les non-dits, les peurs, les croyances et quelquefois les fausses croyances. Vous savez, dans certaines familles, lorsque par exemple, il y a une succession d'abandonnites, c'est-à-dire de femmes qui ont été abandonnées, eh bien, le message, la croyance qui a été véhiculée dans cette famille, c'est les hommes sont des bons à rien, ils sont pas dignes de confiance. Eh bien, ça, c'est une fausse croyance. Une fausse croyance un petit peu plus légère, je ne sais pas, vous la connaissez probablement, c'est cette jeune femme qui vient de se marier et qui coupe son rôti en deux au moment où elle le met dans son four. Et son époux trouve ça assez curieux, il dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette pratique? Et elle dit, mais c'est ma mère qui m'a transmis ça. Ah bon? Et la mère que l'on interroge dit, mais c'est ma mère à moi qui m'a transmis cette... Eh ben, on a toujours dans notre famille coupé le rôti en deux. Et la grand-mère qui est encore en vie et que l'on interroge dit aussi, mais c'est ma mère qui m'a transmis cela. Et l'arrière-grand-mère dit, eh ben oui, moi j'avais pas de plat assez grand, donc j'ai coupé mon rôti en deux. Hein, c'est aussi un exemple un peu plus léger de fausse croyance. Nos blessures, souvent les plus profondes, sont celles que nous n'avons pu exprimer aux personnes avec lesquelles nous aurions dû parler si finalement nous souhaitions l'écoute. Dans les thérapies, combien de fois on entend des gens dire « je n'ai pas pu parler à mon père » ou « je n'ai pas pu parler à ma mère, il est mort, il est parti, je n'ai pas pu l'accompagner ». Je songe notamment à une personne qui a dit au décès de mon père, j'ai pris 20 kilos. J'avais commencé une thérapie et je voulais absolument parler avec lui, m'acquitter d'une certaine dette. Et il est mort avant que je ne puisse le faire. Eh bien, j'ai pris 20 kilos. C'est 20 kilos de colère que j'ai stocké. Et il lui a fallu encore quelques années de travail sur son corps pour arriver à pardonner, pour arriver à comprendre hein, qu'elle pouvait... nous parlions hier lors d'une conférence de la pulsion de mort ou de la pulsion de vie. Eh bien, ça peut s'accumuler. Ça peut effectivement être cette notion d'un accompagnement loupé, raté, qui est de l'ordre de quelque chose qui plombe dans une pulsion de mort. Et puis, on entend aussi des gens dire « Moi, j'ai pu accompagner mon père ou j'ai pu accompagner ma mère. » Et là, on est plus dans la... Quelqu'un m'a dit récemment « J'ai accompagné mon père et aujourd'hui, je ressens une grande joie. » Là, on est dans la pulsion de vie, vous voyez, dans la pulsion de... C'est la joie que l'on ressent. Et c'est vrai que cet accompagnement, aussi douloureux soit-il, lorsqu'on peut liquider ou parler ou déposer ce qu'on n'a pas osé dire, ce qu'on a pu exprimer, eh bien, on se sent en paix. L'être qui part nous quitte, mais il part en paix lui aussi. Et nous, nous avons l'impression d'avoir un fardeau que nous avons allégé. Donc ça, on l'entend très, très souvent en thérapie. Lorsque, par exemple, nous n'arrivons pas à dire les choses, hein, nous ressentons une sorte de boule dans la gorge, un nœud, tous nos comportements sont des langages. Il y a des personnes qui ont une telle carapace, quelquefois, avec des rigidités dans le corps, vous savez, qui portent une cuirasse, on a l'impression une, voire deux, voire trois, pour éviter de ressentir. Comment peut-on être soi lorsque... on a une telle, je dirais, rétention dans nos émotions. Hein, comment être authentique lorsqu'effectivement on a tant de rigidité? Et ces personnes ont énormément de difficultés à exprimer une émotion, à exprimer quelque chose. Elles sont tellement dans la rétention de tout qu'on n'arrive pas à déceler chez elles un tant soit peu d'authenticité. Ça, c'est difficile parce que ces personnes ont énormément de carapaces qui coûtent cher à reconstruire, cher en perte d'énergie, hein, de sensibilité personnelle. Donc, lorsque, par exemple, cette surcharge de tension, elle va bien sûr se manifester d'une manière ou d'une autre hein, dans le corps. Lorsque le corps est bâillonné, c'est l'âme qui parle. Et le corps est métaphore. Hein. Le corps, lorsque l'âme est bâillonnée, c'est le corps qui parle. Hein. Le corps est métaphore. Il va dire tout haut ce que l'on pense tout bas. Et quelquefois, il nous parle tellement fort. Tout à l'heure, je relisais un petit peu le texte de ma conférence et j'étais dans un café, j'entendais quelqu'un dire à côté de moi, tu sais, moi j'écoute la télévision parce que moi, j'entends pas ce que j'ai envie d'entendre au fond de moi. Donc je mets la télévision, ça fait une sorte de brouhaha. Et bien souvent, hein, on n'entend pas ce message, on n'a pas envie de l'entendre. Grodeck, l'un des premiers psychosomaticiens, disait, quand ça ne passe pas par la bouche, il faut bien que ça passe quelque part. Ce quelque part, c'est pour lui, nos organes parlent. Les mots de l'âme sont aussi ceux du corps. Ce qui est tu, réprimé et bridé va s'exprimer d'une manière ou d'une autre par le corps qui est lui chargé de supporter tous ces silences. Sigmund Freud, on a toujours dit le corps, c'est le grand oublié, etc. C'est quand même, je pense que grâce à son corps, peut-être que la psychanalyse existe, peut-être aujourd'hui, puisque son corps a fait l'objet de tant d'études et de souffrances. Mais c'est vrai que faute de temps, il n'a peut-être pas pu s'intéresser réellement au corps. C'est comme lui qui a dit « le moi est avant tout un moi corporel ». Dans l'analyse du cas d'Aura, par exemple, il écrit « celui dont les lèvres se taisent parle du bout de ses doigts et se trahit par ses pores ». C'est quand même une manière aussi d'introduire le corps, hein, même s'il n'est pas sujet d'interprétation, il est quand même là, ce corps. Lacan lui aussi disait que les phénomènes psychosomatiques sont comme des lettres hein, dont il nous faut décrypter le message. Quand nous réprimons par exemple une colère, quand nous n'osons pas dire que nous en avons plein le dos, eh bien notre corps va réagir par un lumbago. Quand par exemple nous avons peur et que nous ne pouvons dire notre peur, eh bien il va y avoir de l'eczéma, il va y avoir quelque chose qui nous démange dans le corps parce que nous n'osons pas nous exprimer. Je me souviens d'une personne qui me disait, enfant, je n'avais pas le droit de dire, de parler, parce que ma mère était malade. Donc, chaque fois que j'avais envie de pleurer, je mordais mon oreiller et j'étouffais mes larmes. Et aujourd'hui, chaque fois que j'ai une contrariété, eh bien, je ne mords plus mon oreiller, mais tout simplement, j'ai une énorme crise d'eczéma. Donc, le corps est là pour supporter un certain nombre de messages et véhiculer des choses. Donc, nous verrons tout à l'heure comment écouter ce corps. L'objectif de cette conférence, ça n'est pas, bien sûr, de travailler sur le bénéfice secondaire d'une douleur, mais c'est d'arriver à travailler sur comment peut-on s'aider et se réconcilier avec ce corps par tout simplement des petites techniques. On sait que boulimie, eczéma, nausée, chaque être humain va finalement opposer au stress et à la souffrance une réponse particulière. Somatiser va devenir à ce moment-là le seul moyen de faire acte de présence en tant qu'être parlant. L'enfance, d'ailleurs, est par excellence l'âge d'or de la somatisation. Marcel Proust en est d'ailleurs l'illustre témoin. Hein. L'amour d'une mère peut aller jusqu'à la maladie. Du fait de son immaturité psychique, l'enfant n'a pas d'autre moyen que de s'exprimer à travers son corps. Il va exprimer un langage sous forme d'une somatisation ou sous forme d'actes de symbolisation, mais c'est un langage qui va plutôt s'adresser au cœur qu'aux oreilles. Une petite fille qui a vu sa mère pleurer parce qu'elle avait perdu son chat a enlevé la photo de son cadre et a mis à la place la photo du chat. C'est ce qu'on appelle un acte de symbolisation. Nous savons que les enfants sont branchés sur notre inconscient. Nous pouvons leur dire un certain nombre de choses. Nous avons le droit de dire, une petite fille, il y a quelques années que j'avais reçue, arrêtez pas de dire « c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute ». Et elle disait ça tout le temps. Et en fait, ses parents avaient divorcé et avaient tout simplement oublié de lui dire « Tu sais, nous t'aimons toujours encore, nous t'aimons autant, simplement, nous nous quittons, mais ça n'a rien à voir avec ton histoire, c'est notre histoire à nous. » Et cet enfant est devenu finalement le porte-parole d'une souffrance. Souvent, les enfants sont les porte-étendards de la souffrance d'une histoire familiale. Nous pouvons dire aux enfants, nous pouvons mettre des mots, mais pas n'importe lesquels. C'est utiliser le langage de l'enfant. Souvent, par exemple, la chose la plus difficile à dire à un enfant, c'est la mort. Cet enfant auquel on avait dit, tu sais, ton petit frère est parti dans les étoiles, parce qu'on n'a pas osé lui dire la mort, que son petit frère était mort, on n'a pas osé utiliser ce terme qui est dans cette famille tellement tabou. Alors on lui a dit, tu sais, ton petit frère est parti dans les étoiles. Et cet enfant a fugué. Il est parti 3 jours. Il est revenu manu militari avec les gendarmes. Il avait vraiment fugué. Et il était parti avec son sac à dos et son sac de couchage. Et il est allé scruter les étoiles, simplement pour voir où était son petit frère. Donc, arriver à dire la mort, Ginette Rimbaud, dans son ouvrage sur l'enfant et la mort, dit que c'est vraiment la chose la plus difficile à dire à un enfant, dire la mort. Pourquoi ? Parce que cette mort, c'est aussi le rapport à notre propre mort, notre propre histoire avec la mort. Et c'est quelque chose d'assez tabou. Donc nous avons le droit de dire, et souvent l'enfant, quelquefois, devient le parent des parents. Parce que souvent, on dit des choses à un enfant, mais on lui fait porter quelquefois des choses qu'il n'a pas à porter. Et c'est à ce moment-là que l'enfant devient le parent. Combien de fois en thérapie, on a ces histoires douloureuses d'enfants qui ont été toute leur histoire d'enfant durant le consolateur, le réparateur. Par exemple, cette mère qui se voit abandonnée et qui confie toutes ses peines à sa fille, et cette fille qui devient finalement la mère de sa mère. Et cela, il y a peut-être beaucoup de thérapeutes dans la salle, vous avez dû entendre souvent ces histoires douloureuses, très très souvent. Et il appartient là aussi de dire à cette petite fille qui est devenue adulte, ça ne vous appartient pas, ce n'est pas votre histoire, c'est celle que l'on a mis effectivement dans votre sac à dos, ce sac à dos. Au cours de son histoire, l'homme a souvent utilisé son corps pour traduire un message qui ne pouvait s'exprimer à travers la parole, s'organiser à travers une parole. La sagesse populaire a d'ailleurs très bien traduit cela, hein, se ronger les sangs, se faire de la bile, avoir le cœur gros. Tout cela, ces locutions populaires ont aujourd'hui une assise scientifique, hein, ce qui tend à réduire d'ailleurs cette dichotomie entre corps physique et corps psychologique. Avoir le cœur gros répond à une réalité physique d'ailleurs, puisque l'émotion va réduire la fréquence cardiaque et elle va également parallèlement augmenter la stase veineuse, ce qui donne cette impression de cœur gros. Quand on dit, par exemple, avoir la gorge nouée, hein, ou le nœud à l'estomac, ou par exemple cette notion de « ça ne passe pas », eh bien, on sait que le stress libère un flux de substances chimiques qui sont en fait les neurotransmetteurs qui vont produire justement ce spasme, l'œsophage. Il y a d'autres manières de s'exprimer avec son corps. On sait par exemple que une forte frayeur peut par exemple produire une canicie, c'est-à-dire un blanchiment de cheveux ou carrément une perte de cheveux. Marie-Antoinette en est d'ailleurs l'illustre témoin aussi, puisque l'avant-veille de son exécution, elle est passée du blond au blanc. L'épiderme est le lieu privilégié aussi de l'expression émotionnelle. La peau fait la jonction entre le dedans et le dehors. Hein, c'est vraiment cette limite entre le dedans et le dehors. Louis Jouvet, à chaque première, faisait une crise d'eczéma paroxystique. Hein, c'était vraiment pour lui cette... Et je me souviens, j'avais œuvré pendant quelques années dans un centre de thalassothérapie où on avait reçu des agents de change et qui étaient on sait que dans l'échelle de stress, ces gens sont passablement somatise énormément. Et on avait été obligé de vider la piscine du centre tellement il y avait de problèmes de peau. Ils avaient tous eczéma, psoriasis, maladie de peau, etc. Donc la peau, c'est vraiment l'expression privilégiée de l'émotion. C'est là où elle vient se nicher. On sait que, par exemple, dans des cas de stress intense, nos défenses immunitaires s'effondrent même. On sait qu'un stress, lorsqu'il devient chronique, hein, notre système de défense, lui, se retourne contre nous et devient autodestructeur. Hans Selye, qui est un biologiste d'origine canadienne, a étudié le stress. Et dans ce stress, en fait, il a traduit ce stress par trois phases et surtout cette corrélation entre le corps et le physique. Dans la première phase, qu'il a intitulée la phase d'alarme, il y a sur le plan physiologique un certain nombre de signaux comme baisse de température du corps, vous savez, une sensation un petit peu de frilosité, une sensation de paupières qui clignotent, etc. Ce sont des petits messages que la plupart du temps on occulte, hein, on n'en tient pas compte. Et puis on va entrer à ce moment-là dans une seconde phase qui s'appelle la phase de résistance de nature nerveuse. Je suis fatiguée, mais je résiste. Et cette phase-là, sur le plan physiologique, elle va se traduire par l'effet inverse de la phase 1. C'est-à-dire, il va y avoir un accroissement de l'activité des glandes cortico-surrénales ou parasympathiques, ça c'est le plan physiologique, et cela va se traduire par une sensation de boule, de nœud à l'estomac, de toutes sortes de maux, puisque c'est à partir de cette phase-là que commencent ces fameux maux du corps et qui vont se générer une angoisse, une peur, hein, parce qu'on ne saura pas une douleur. On sait que lorsque elle devient chronique, permanente, elle génère la plupart du temps une angoisse profonde, voire même jusqu'à la dépression. Eh bien, le corps nous a envoyé toutes sortes de signaux. Et lorsque nous ne les écoutons pas, nous entrons dans une troisième phase qu'il a intitulée la phase d'épuisement. Toutes les réserves ont été épuisées. Il n'y aura pas d'autre alternative que la lésion d'organes. C'est-à-dire, le corps va choisir un organe payeur pour l'immobiliser, pour dire stop. Alors, quelquefois, c'est grand mystère, ça va être effectivement un corps qui va s'immobiliser, ou alors ça va être la dépression. Aujourd'hui, on ne sait pas encore pourquoi certaines personnes vont réagir par une dépression et d'autres par le corps, hein, qui peut être jusqu'à la maladie grave. D'ailleurs, Pasteur disait que la maladie n'est rien par rapport à l'important, par rapport à l'importance du terrain. Donc, lui, qui était quand même un grand scientifique, a commencé à prendre conscience à la fin de sa vie de l'importance du terrain, c'est-à-dire de l'importance du moi, finalement. Donc, dans ces fameuses phases du stress, il y a la fameuse phase 1 qui est la phase d'alarme. Le corps nous envoie des petits signaux d'alarme. Dans la phase 2, il nous envoie un message très fort. Et dans la phase 3, c'est carrément une balise de détresse. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on n'écoute pas son corps. Là, on n'a pas d'autre alternative. Hein, quelquefois, c'est une fracture de cheville, un poignet foulé, ou alors une maladie qui nous permet de montrer, regardez, hein, je tiens le coupable, ou bien regardez, je peux enfin me reposer, parce qu'en fait, c'est quoi la base? Nous avons tellement peur de ne pas être parfait, nous avons tellement peur du manque d'amour, parce qu'en fait, c'est ça. Donc, il faut absolument être parfait, il faut travailler jusqu'à s'épuiser, il faut pouvoir montrer qu'on est capable de. Or, nous avons le droit de dire, nous avons le droit de nous reposer. Hein, Françoise Dolto disait, nous sommes des habitués de la planète Terre, AIRE. Nous sommes des êtres aux peurs innombrables. Nous avons peur de faire, nous avons quelquefois peur de défaire, mais souvent, la plupart du temps, nous avons peur de vivre, nous avons peur d'exister à travers nous-mêmes. Nous avons le droit de sortir d'un schéma de répétition. Hein? Et la communication que nous n'avons pas apprise peut s'apprendre. Nous pouvons apprendre à dire nos peurs sans forcément les imposer à l'autre. Hein? Et c'est souvent ce que nous faisons, c'est-à-dire nous les transmettons. Oser dire ces peurs, ce n'est pas les transmettre ou les faire prendre en charge par l'autre. Quand nous prenons le risque de dire, eh bien, et de dépasser ces peurs, nous prenons aussi le risque d'être entendus. Savoir dire non, hein, permet de dire surtout des oui plus authentiques, d'être cohérent avec soi-même. Donc voilà la première partie de cette conférence, enfin de ce petit exposé, pour maintenant comment arriver à être davantage à l'écoute de son corps, comment apprendre à décoder justement les messages du corps et ce que nous ressentons. Eh bien, cela passe par l'écoute du corps avant tout. Le corps, quoi qu'il arrive, n'aspire qu'à une seule chose, à être en bonne santé. Lorsque nous abusons de lui de façon excessive, eh bien, il va nous le faire comprendre, hein, il va nous l'exprimer à travers une douleur. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se précipiter dans notre pharmacie, on va aller chercher un médicament, on va l'avaler, une manière de dire à notre corps, tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Alors, pendant quelque temps, il va se taire, et puis ça va recommencer de plus belle, et puis on trouvera encore un autre moyen pour éradiquer cette douleur. Et finalement, c'est en occultant nos souffrances que nous les aggravons, c'est-à-dire que nous renforçons ces douleurs, et finalement, nous n'en sommes jamais libres. Nombre d'entre nous, d'ailleurs, n'ont pas appris à prendre soin d'eux-mêmes et attendent, et sont encore dans une attente, je dirais, démesurée et désespérée, que quelqu'un d'autre vienne prendre en charge ou les prendre en charge. Prendre soin de soi signifie quoi? Les réponses sont quelquefois aussi simples que de laisser son travail de côté, de s'accorder un tout petit peu de temps lorsque, par exemple, on ressent une tension, une douleur, simplement de se dire « j'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de respirer hein, ». Mais quelquefois, on se dit « tiens, je tiens le coupable, c'est un virus, je suis tendue, j'ai le poignet foulé, donc vous voyez, hein, je vais enfin pouvoir m'arrêter ». Mais non, c'est pouvoir dire « je ne vais pas atteindre cette extrême limite ». Je vais pouvoir prendre soin de moi. Combien de fois pensons-nous à notre corps? Je dirais souvent et en même temps jamais. Souvent pour se dire, oh là là, j'ai de la cellulite, j'ai des rides, une culotte de cheval, etc. Et jamais pour lui dire de quoi as-tu besoin? Pas souvent. Et quelquefois, le corps, il détient le secret. Il nous permet de savoir quel est le sens de la parole. Mais ça, nous n'avons pas appris à écouter notre corps. Nous n'avons pas appris. Qu'est-ce que c'est qu'écouter son corps? C'est aussi écouter des bruits. C'est permettre un dialogue avec soi. dans l'optique de cette unicité corps-esprit. Lorsqu'on amène, par exemple, une personne à entrer en contact avec son corps, elle parvient peu à peu à comprendre pourquoi elle a étouffé ses pleurs, sa colère, et d'où cette respiration bloquée qui l'étouffe quelquefois et qui provoque aussi des palpitations. Ça parle, vous entendez ? Ça parle. Pourquoi elle serre ses dents aussi quelquefois ? D'où cette mâchoire verrouillée qui provoque des tensions et des stress chroniques. Pour certains, il sera difficile d'exprimer et de ressentir de la colère, tellement ils seront cuirassés, verrouillés à tous les étages, tellement ils ne s'autoriseront pas à ressentir. Et travailler avec ces personnes, c'est assez difficile parce qu'elles auront besoin de ressentir cette colère, elles auront besoin de la sortir, de la dire. Et nous verrons tout à l'heure symboliquement qu'il y a aussi des techniques, lorsqu'on ne veut pas aller au plus profond de son émotion, parce que chacun est libre de choisir la manière d'exprimer tout cela. On peut tout simplement, par une symbolisation à l'aide de la respiration, sortir quelque chose. Ils auront besoin de prendre conscience de leur colère refoulée et devront arriver à l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Lorsque on se forge des cuirasses et des rigidités, c'est de plus en plus difficile d'arriver à exprimer quelque chose. Écouter son corps, c'est aussi entrer en contact avec lui, c'est en être conscient, c'est l'habiter, c'est se fier aussi à son intuition, prendre le temps d'écouter nos sentiments, même les plus profonds. Si par exemple nous ressentons une fatigue, nous pouvons dire j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de ressentir cette fatigue. Alors, dans les différentes techniques qui nous apportent un soulagement dans cette notion d'écoute du corps, il y a la respiration. La respiration, c'est la base de tout état de détente. C'est un rendez-vous avec soi-même. Mais quelquefois, nous n'osons pas écouter cette respiration. Lorsque nous avons peur, on dit bien la peur au ventre, on bloque sa respiration. Regardez le petit enfant, lorsqu'il respire, il est toujours dans sa respiration abdominale. Nous sommes dans la respiration haute. La respiration, c'est le premier langage à notre disposition lorsque nous naissons. Eh bien, nous sommes dans cette respiration haute, nous bloquons. Le ventre fait la jonction entre le haut et le bas, le honteux et le sacré, disent les orientaux. Pour les orientaux, le ventre, c'est le centre de la sérénité, le centre de la paix. Chez nous, ce serait plutôt le sac à refoulement. Il contient beaucoup de choses, ce ventre. Les colères, les peurs, tout ce qu'on a stocké, tout ce que l'on retient, cette notion de rétention. Respirer, c'est enfin trouver son centre, son point d'équilibre. La respiration naturelle fait participer le corps dans sa globalité. C'est une énergie qui circule. Et lorsque, par exemple, on a quelques difficultés à exprimer une émotion ou à exprimer une colère, eh bien, on peut arriver à prendre conscience qu'à l'aide de ce souffle, notamment l'expiration, on peut symboliquement évacuer tout ce qui est nuisible à notre harmonie, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous dérange, sans forcément le nommer. Et on sait que c'est souvent la peur ou une quelconque émotion qui nous empêche de respirer à fond. Dans les différentes techniques que j'ai listées au niveau des petites choses qui nous aident, c'est aussi la visualisation. Les Chinois disent une image égale 10 000 mots. La visualisation, on sait qu'aujourd'hui, nos pensées parasites, qui sont le plus grand terroriste, c'est notre mental est le plus grand terroriste. On sait aujourd'hui qu'on a le pouvoir de se rendre malade grâce à ces pensées négatives. Eh bien, la visualisation, par cette notion de détente que procure une scène paisible, un paysage ou un souvenir heureux que l'on a stocké en mémoire, parce que vous savez, on a toujours l'impression qu'on a vécu des choses très, très douloureuses dans notre passé, eh bien, on a simplement oublié que dans notre notre mémoire, il y a aussi quelques petits souvenirs heureux, mais on les a oubliés, cela. Eh bien, il faut savoir que sur le plan physiologique, la pensée négative, c'est une décharge de cortisol. Ce cortisol qui va venir bloquer les muscles striés, la gorge, le plexus solaire, le ventre, le dos, etc. Et lorsqu'on a ce pouvoir-là, de penser à mettre une pensée agréable, une pensée de paix, une pensée d'harmonie, eh bien, sur le plan physiologique, ce sont des décharges d'endorphines. Vous savez que l'endorphine, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone du bien-être. Donc, on a toujours le choix. Pouvoir à un moment donné se dire stop, là, tout ce que je ressasse, c'est mon passé. Je peux aussi maintenant penser à des choses agréables. Même si nous ne l'avons pas appris, nous pouvons nous l'apprendre et surtout le transmettre à nos enfants, le transmettre. Ça, c'est l'écoute de sa respiration, c'est l'écoute aussi de la visualisation. Et puis, il y a aussi quelque chose de, quand nous avons une douleur, nous pouvons par exemple nous asseoir, retrouver ce paysage de paix, de calme, pour laisser ce corps se détendre, et puis parler à cette douleur. Lui parler et lui dire, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Lorsque cette douleur se manifeste, elle a bien sûr quelque chose à nous dire. Alors, soyons indulgents avec nous-mêmes et laissons venir les réponses. Quelquefois, on est obligé d'avoir une écoute, mais très très attentive, et les réponses ne viennent pas tout de suite. Mais lorsqu'on commence à utiliser cette technique avec plus de régularité, eh bien, on se rend compte qu'on a les réponses. On va écouter comme si chaque parcelle de notre corps et de notre esprit s'efforçait d'entendre quelque chose. Et en écoutant, eh bien, on va finir par entendre. Donc ça, c'est une écoute qui est tout à fait intéressante. Il y a aussi, peut-être vous connaissez cet outil qu'est la sophrologie et qui a été pour moi assez révélatrice parce que c'est vrai que j'ai fait une très longue analyse, freudienne bien sûr, et que j'y ai trouvé des réponses, mais pas toutes les réponses. Et que j'ai commencé réellement à me réconcilier avec mon corps en découvrant la sophrologie. Elle a eu pour moi une dimension tout à fait maternante. Elle m'a permis de me réconcilier avec des émotions positives surtout, avec une harmonie intérieure. Ça a été la porte ouverte du cœur. Ça a été pour moi quelque chose de tout à fait intéressant. Et aujourd'hui, nous sommes dans une grande mouvance. Nous animons des séminaires de sophrologie. Et c'est vraiment la première année où nos séminaires sont archi-complets. On a été obligé de reprendre une autre formation, deux formations sur une année. Ce qui prouve que les gens ont compris à quel point cette dimension corporelle est importante et intéressante. Parce que ce corps, qui a souvent été le grand oublié de par notre éducation, de par notre culture, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de dire les choses. Et c'est vrai que ces techniques, on sait que par exemple, l'écoute d'une séance de sophrologie représente 2 à 3 heures de récupération sur le plan du système nerveux. Vous allez peut-être me dire, c'est une dépendance, mais elle est moins nocive que... Et puis, vous pouvez écouter vous-même, c'est-à-dire, vous pouvez tout simplement vous faire vous-même une petite séance, c'est-à-dire faire silence, faire silence, parce qu'on a besoin de face-à-face avec soi-même. Quelquefois, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme cette jeune femme tout à l'heure au restaurant qui disait « je mets la télévision pour éviter d'écouter le brouhaha intérieur » ou bien j'écoute de la musique ou bien je téléphone, j'écoute mon portable, etc. Je téléphone à tous mes amis parce que ce silence intérieur, j'ai peur. J'ai peur d'écouter mon corps et aussi mon âme. Et en fait, en arrivant à comprendre que le corps est relié à l'âme, on peut entendre les murmures de cette âme, on peut entendre les murmures du corps, et on peut arriver à les réconcilier tous les deux. Donc, faire silence, on n'a pas besoin de partir au Tibet, la vie est ici, elle est là, ici et maintenant. Donc c'est important de relier tout ça à la vie, mais d'avoir des moments à soi, des moments de paix. On peut aussi définir son espace. Je pensais à une jeune femme qui me disait, chez moi, j'ai aucun endroit où je peux revendiquer mon espace à moi. Alors, ce que j'ai fait, dans mon bureau, je me suis aménagé un tiroir. Et dans ce tiroir, j'ai mis des petites choses. J'ai ramassé une pomme de pin parce que j'aime la nature. J'ai mis une photo de mon enfant. Mais c'est un tiroir à moi. Ou quelquefois, quand je suis agressée par des clients, eh bien, tout simplement, j'ouvre mon tiroir et puis je me recharge en ouvrant mon tiroir. Vous voyez, c'est des petites, je dirais, c'est des petites ordonnances thérapeutiques pleines de bon sens. Parce qu'on a oublié quelque chose aujourd'hui. On a vraiment oublié quelque chose, c'est le bon sens. C'est simplement se relier à la vie. Alors, il y a une autre technique qui est tout à fait intéressante. Bien sûr, il y a la méditation. La méditation, là aussi, point n'est besoin de partir très très loin. On peut simplement s'installer devant une bougie, laisser ce calme s'installer en nous depuis des millénaires. Des civilisations ont étudié la méditation et l'art de laisser entrer en soi quelque chose, une foi quelle qu'elle soit. Eh bien, aujourd'hui, pourquoi on se tourne tant vers toutes ces civilisations, vers le bouddhisme et autres? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a plus de foi, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien, on a besoin de quelque chose. Mais on a surtout besoin de quoi? De retrouver une certaine tranquillité intérieure. Et c'est la raison pour laquelle on va se tourner vers ce genre de méditation. Mais aujourd'hui, ce qu'il importe de savoir, c'est que c'est la joie que l'on doit retrouver, c'est-à-dire cette joie intérieure. Le passé est ce qu'il est. Nous avons tous en nous des cicatrices du passé. Nous avons tous en nous des petites blessures intérieures de cet enfant blessé. Mais nous pouvons aussi retrouver la joie de l'enfant. Et ça, nous avons tendance à oublier cette spontanéité de l'enfant qui est en nous. Alors, quelques petites techniques aussi que nous pouvons utiliser, c'est le rire, c'est le chant. Et c'est aussi l'éveil des sens. L'éveil des cinq sens. Je songeais à une femme qui est venue me dire « Je viens de divorcer. Je n'avais pas compris que, depuis toutes ces années, j'ai été frappée de cécité. Je n'avais pas compris que ce couple ne marchait pas depuis toujours. » Je n'avais rien ressenti. Eh bien, justement, l'écoute des sens, voir, entendre, toucher, écouter, me permet de toucher encore d'autres sens. L'intuition, la créativité, l'imagination, et plein d'autres sens encore. Et surtout, lorsqu'on est dans l'éveil des sens, on est dans la vie, on est dans la joie, on est dans l'ouverture du monde. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on voit, lorsqu'on entend, lorsqu'on perçoit, on est dans la joie, on est dans la vie. Et le sommet de la sagesse réside, nous disait Lao Tzu, dans l'amitié que chacun se doit. Et cette amitié, eh bien, cette sagesse intérieure va nous permettre aussi d'aller vers les autres. C'est cela. Je pensais à une phrase de... Je songe tout à coup à Anna Freud qui, lorsqu'elle travaillait avec les enfants à la clinique de Hampstead à Londres, disait à un enfant, lorsqu'elle s'adressait à lui, « Dis-moi ce que ressent ton cœur. » Eh bien, ça, c'est la porte ouverte de l'émotionnel. C'est le langage du cœur. Mais il s'adresse aussi à nous, les adultes. Nous qui avons ce raisonnement un petit peu, nous travaillons avec notre cerveau cognitif. Eh bien, pouvoir dire « Je parle avec mon cœur ». C'est cela, l'intelligence du cœur. Merci de votre écoute. Alors, bien sûr, je suis à votre disposition tout à l'heure sur le stand et puis aussi pour répondre aux questions, puisque je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je peux, vous avez, vous aussi, la parole et vous parlerez avec votre cœur. Oh, c'est merveilleux.
Merci, madame, d'abord pour ces mots très bons qui nous redonnent de la joie au cœur. Et vous, madame, qui avez fait une longue analyse, je voudrais vous poser une question en relation avec les méthodes analytiques. Et en particulier, au début du siècle dernier, Freud, qui est passé d'abord, qui a quitté l'hypnose pour aller vers justement ce divan, a écarté le corps d'une certaine manière. Et a laissé, par la libre expression de la parole, la place ouverte à l'inconscient. Je voudrais vous demander aujourd'hui si il n'y aurait pas une nouvelle place à une sorte de psychanalyse corporelle où le corps serait une nouvelle expression de l'inconscient, avec aussi là une possibilité de lecture nouvelle qui permettrait d'aborder la personne, de l'écouter avec plus de richesse et dans toute son unité.
Merci. Vous savez, ce n'est pas par hasard si je me suis intéressée au corps. Je pense qu'il y a certainement dans la voie de la transmission transgénérationnelle quelque chose d'inachevé. Et c'est vrai que ma thèse de fin de cycle a été le langage du corps. Bien sûr, mon corps m'a parlé, mais il y a d'autres corps qui m'ont parlé aussi. Merci. Vous pouvez vous exprimer. J'ai encore 20 minutes, j'ai peut-être parlé trop vite, mais c'est le corps et le cœur qui ont parlé.
Bonjour.
Bonjour.
Pour se libérer des maux du corps, faut-il en trouver la cause? Et même si on semble avoir trouvé, pourquoi parfois est-elle toujours là, la souffrance dans le corps?
Alors là, bien sûr, on pourrait parler de cette notion de bénéfice secondaire de la douleur, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence. Bien sûr, vous savez, pour certaines personnes, la douleur, c'est le manque à être. Elle n'existe qu'à travers la douleur. Alors là, on pourrait parler de pulsion de vie, de pulsion de mort, de masochisme primaire, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'objet de cette conférence, c'est pouvoir dire, bien sûr, il y a une cause. Si nous n'abordons pas la cause, nous faisons ce qu'on appelle de la répression symptomatique. Nous allons mettre le couvercle sur le symptôme et un autre symptôme encore plus criant va se mettre à parler. Alors, la cause, bien sûr, elle est là. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut arriver à dépasser tout cela. On peut arriver à se dire, bien, c'est vrai peut-être que cette notion de compulsion de répétition, j'ai enfin le droit de couper, j'ai enfin le droit de dire, je peux dépasser. Hein, cette... Bien sûr, elle est là, bien sûr. Alors, on sait très bien que la douleur, elle a quelquefois une signification. Hein. Elle nous permet d'éviter de décompenser. Vous, si vous avez travaillé, je sais qu'il y a un public très averti ici. C'est pour ça que hier j'étais un petit peu inquiète parce que la conférence que j'ai préparée, c'était une conférence vraiment grand public. Je ne pensais pas qu'il y avait un public aussi spécialisé que de psychanalystes. Mais je crois que les psychanalystes aussi comprennent mon langage, c'est-à-dire celui qui s'exprime à travers le cœur et le corps. Oui,
bonjour, Alban. Alors, pas psychanalyste, mais passionnée de psychanalyse. Je suis professeure de danse et chorégraphe. Et je voulais d'abord vous remercier avant tout pour votre grande sagesse, grande sérénité. Et avec calme et générosité, vous nous avez exprimé cette conférence.
Merci.
Je vous en prie, c'est normal. J'en ai retiré beaucoup de plaisir parce qu'en fait, vos mots parlent à mon travail et presque j'aurais envie de faire un lien en trois, en triangle avec ce qu'a dit ce monsieur là-bas. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé autrefois à l'esprit, à l'inconscient, la psychanalyse, tout ça, et que le corps dit beaucoup de choses effectivement. Bon, de par mon métier, j'ai un travail réel justement d'écoute et il est passionnant de voir les adultes débutants en danse ou en sophrologie ou en gym, enfin bon. Mais à partir du moment où on travaille avec le corps et les émotions, le corps raconte l'histoire d'une personne et on arrive effectivement à lire l'histoire de cette personne sans l'effrayer, bien sûr, et en l'amenant effectivement par des mots à faire un travail sur son corps. Son corps parle à son esprit et à libérer ses émotions. Donc voilà, enfin, c'est tout ce que je voulais dire, mais
c'est très beau ce que vous dites.
Et je voulais vous remercier parce que ça, moi en tant que professeur de danse, ça m'a énormément parlé. Je ne l'exprime pas aussi bien que vous, mais il y a un lien vraiment direct et quelque chose vraiment à développer par rapport à ça. Bon, je sais qu'il y a la danse-thérapie, je ne pratique pas. Voilà, mais le corps et l'esprit sont...
Vous l'exprimez tout aussi bien que moi, vous l'exprimez avec votre cœur et aussi avec votre corps. Et ce que vous dites est vrai. Dans la mesure, j'ai moi-même un parcours de danseuse classique avec beaucoup de douleur. Le corps qui se cuirassait, qui avait mal, que l'on torturait en fait. Alexander Lowen, qui était l'un des bio énergéticien, disait que on pouvait lire chez un enfant de 10-11 ans, dans sa posture, dans sa position, dans l'espace, ce qui se passait. Un corps bafoué, un corps qui avait vécu un certain nombre de traumatismes, tout se lisait dans sa position, dans sa verticalité, dans sa manière de se tenir au monde. Vous savez, lorsque des gens sont un petit peu déprimés, il y a un exercice tout à fait intéressant qu'on leur demande de faire. C'est tout simplement celui-là. Vous avez, quand on n'est pas très bien, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance un peu à se replier. Eh bien, un très joli exercice qu'on peut faire, c'est tout simplement celui-là. C'est de simplement faire ce geste-là, s'ouvrir à la vie. Je vais vous le montrer debout. S'ouvrir à la vie. Simplement ce geste-là. Eh bien, ça nous donne une autre dimension de notre corporalité. Plutôt que d'être voûté, crispé, courbé, tout à coup, on s'ouvre. Le corps bouge, le corps s'ouvre dans l'espace, et en même temps, on voit. Et on ne regarde pas le sol ni le bout de ses chaussures, on s'ouvre à la vie. Merci pour votre joli témoignage.
Voilà, je suis ni psychanalyste, ni psychothérapeute, je fais partie du grand public et je suis ravie d'être ici, je suis venue spécialement vous écouter et merci. Je suis très émue, voilà, mon corps parle et je me remplis de tous vos mots et je suis ravie d'être venue vous écouter. Vous avez une très belle voix qui apaise et je suis très émue. Voilà, ouais.
Je suis très touchée par ce que vous venez de dire. Merci infiniment.
Bonjour, Josiane Fombiot, je suis psychanalyste. Je voulais vous demander, est-ce que vous, enfin, en fonction de ce que vous avez dit, quelle est votre opinion sur la question suivante? Serait-il souhaitable que les personnes en analyse fassent également un travail corporel simultanément?
Avez-vous une idée de ma réponse?
Il se trouve que les personnes qui viennent en analyse choisissent les mots MOT. Serait-il souhaitable de leur suggérer un autre langage alors qu'ils viennent vers nous pour mettre en mots, oui, MOT? Voilà. C'est... Bon, moi personnellement, je suis intéressée évidemment par le corporel, oui, mais je suis surtout, oui, psychanalyste, c'est-à-dire de mots MOT, c'est ce que j'entends.
Vous savez, j'ai eu l'occasion dans mes formations d'avoir des gens qui ont fait ce parcours psychanalytique. Et vous ne pouvez pas imaginer la métamorphose de ces personnes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Ces personnes qui sont arrivées, je ne juge pas, hein, je suis moi-même arrivée avec trois cintres dans mes épaules avant de démarrer et de m'intéresser à la sophrologie, vous savez, rigide, bloqué, etc. Et puis avec une formation de juriste à la base, donc vous imaginez les rigidités et avec toute mon histoire. Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer, lorsqu'on démarre une formation, au début et à la fin, la métamorphose. Et même si il y a quelquefois une usure, une érosion dans l'enseignement, eh bien, ce vrai bonheur que je ressens lorsque les personnes changent comme cela, eh bien, c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Et croyez-moi, lorsqu'on fait ce travail, effectivement, lorsqu'on est analyste, cette dimension corporelle et l'interrogation de monsieur tout à l'heure est tout à fait intéressante et judicieuse. Je dirais, c'est presque... Vital.
S'il vous plaît, madame, je voudrais vous demander, est-ce que j'ai découvert un livre il n'y a pas très longtemps, c'est « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Je le trouve fabuleux.
Oui.
Et c'est vrai qu'actuellement, personnellement, j'ai mal au genou, c'est vrai. Et je sais depuis fort longtemps, depuis combien de temps je l'ai abîmé. Alors, je me sens responsable, mais enfin, il me fait voir que j'en ai un, oui, et j'aurais dû faire attention.
Vous avez le droit de le consoler, ce nous.
Maintenant, je suis en accord avec lui, je l'ai compris, mais c'est un livre formidable.
Oui.
Alors, vous voyez ça, il faudrait vraiment que beaucoup l'aient, parce qu'il est très, très bien.
Je crois beaucoup au pouvoir de la lecture, parce que les lectures nous font avancer, hein, nous font bouger. J'ai eu la chance l'année dernière... Je vais peut-être faire la publicité pour mon éditeur qui est Albin Michel, mais ça n'a rien à voir. J'ai été marquée par un livre que j'ai acheté ici au Salon du Livre Psy qui s'appelle « Quand la conscience s'éveille » d'Anthony de Mello. C'est l'espace, je crois que c'est l'espace spirituel. Écoutez, c'est un livre absolument extraordinaire qui, que j'utilise comme livre de chevet, parce que de temps en temps, j'en lis une page. Eh bien, ce livre commence par « Nous sommes tous des endormis ». Nous sommes tous des endormis, nous avons oublié de nous réveiller. Nous mangeons en étant en dormant. Mais c'est un livre qui est plein de richesses, plein de bon sens. Et le pouvoir des livres, c'est, je le connais ce livre, c'est Michel Odoul, c'est vrai que c'est un excellent ouvrage. Les livres, je me suis nourrie moi toute ma vie de livres. On a besoin, je crois, d'avoir comme ça des maîtres, des lectures qui nous nourrissent.
Bonjour, je suis kinésithérapeute, donc on va dire un petit peu de l'autre côté de la barrière. Et je parle volontairement de barrière parce qu'en fait, lorsqu'on fait ces études-là, on pense qu'il n'y a un corps, et essentiellement un corps. Et en fait, avec la pratique, on s'aperçoit que grâce à nos soins, on s'approche de l'âme et qu'on essaye de contribuer d'une autre façon, d'un autre abord à ce que vous pratiquez parallèlement. Donc voilà, c'est un témoignage et je voudrais vous remercier infiniment de ce que vous m'apportez.
Merci madame. Je voulais vous dire que chaque année dans nos formations, il y a des kinésithérapeutes. Hein, chaque année. Et je ne pense pas que cette notion d'être de l'autre côté de la barrière... au début, oui, c'est ce qu'on pense. Et en fait, c'est faux parce que le corps, Dieu sait si la notion du kinesthésique, du toucher, vous savez, on peut toucher avec des mots, mais on peut aussi toucher avec son corps, on peut toucher avec son cœur. Et au contraire, c'est vraiment quelque chose de totalement... Il y a énormément de gens, d'ailleurs, de kinésithérapeutes qui sont maintenant sophrologues et qui arrivent à travailler conjointement, hein. C'est tout à fait intéressant, heureusement d'ailleurs.
Bonjour madame.
Bonjour, monsieur.
J'ai une question à vous poser au sujet des méthodes que vous avez indiquées pour être à l'écoute du corps.
Mmh.
Honnêtement, je peux dire que je les ai toutes pratiquées et que je me suis heurté à un mur. Peut-être est-ce le mur impossible? Ce mur, c'est que j'ai fait toute la guerre, j'ai été déporté et j'ai fini dans un camp de concentration. Je n'arrive pas, absolument pas, à en faire abstraction. Il suffit de peu de choses. Je ne supporte pas d'entendre quelqu'un parler allemand. J'ai été à Londres avec mes petits-fils il y a quelque temps. On m'a dit, votre autobus est celui sur lequel il y a un triangle rouge. Oui, mais le triangle rouge était celui des déportés politiques. La méditation, oui, je fais du yoga depuis 40 ans, je médite tous les jours, 1 h le matin, 1 h le soir. J'en suis toujours au même point. Alors, est-ce que vous avez encore une autre méthode à indiquer que je pourrais essayer?
Vous savez, monsieur, vous dites j'en suis toujours au même point, mais vous êtes quand même dans la pulsion de vie. Sinon, vous ne seriez pas venu écouter cette conférence. Et ce que vous dites me parle. Vous connaissez l'histoire de Sigmund Freud et dans ma famille. Je véhicule moi aussi dans mon histoire transgénérationnelle ces déportations, puisque toutes les sœurs de Sigmund sont déportés, sont partis en déportation. Et c'est vrai que chaque fois que je mets les pieds en Allemagne, j'ai une émotion tellement forte, tellement vive. Mais je crois qu'on est dans la pulsion de vie parce que, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que probablement vous êtes encore, vous avez encore cet espoir de vie. Et continuez à méditer, continuez à écouter le silence parce que, malgré ces bruits intérieurs, malgré ce bruit, malgré tout ce que vous avez entendu et qui résonne si fort encore en vous et qui résonne aussi en moi, eh bien, il y a une petite flamme, il y a toujours un peu de soleil quelque part. Continuez.
Dernière question.
Très difficile de clore, surtout après le témoignage de monsieur qui est particulièrement émouvant. Ce sont les hasards d'aujourd'hui qui font que je prends la parole, parce que je suis à la fois ex-danseuse classique, ex-informaticienne, sophrologue et en cours d'analyse et atteinte d'une grave maladie. Et avec tout ça, c'est une grande chance, parce qu'aujourd'hui, grâce à toutes ces pratiques, c'est pour ça que je voulais parler aussi à la dame qui est psychanalyste, je fais une analyse depuis 5 ans, et grâce à la psychanalyse, grâce à la sophrologie que je pratique activement et de façon répétitive, je suis en pleine forme, mais je regrette de ne pas avoir laissé monsieur terminer. C'était bien plus important.
Non, je crois que chacun a son temps de parole. Merci en tous les cas. Et vous êtes venu, je crois, l'année dernière, suivre une formation en sophrologie. Merci d'être là et merci de ce témoignage. Et je sais que vous aussi, vous avez quelque chose de très lourd à porter, que vous rayonnez, que vous avez le sourire. Mais ça aussi, c'est la pulsion de vie. N'oublions pas qu'on a vécu cette pulsion de mort, elle est lourde, etc. Mais on a la pulsion de vie, on a tendance à l'oublier. C'est pas parce qu'on nous a répété qu'on était des bons à rien, des nuls, etc., hein, qu'on a le droit de... On pense qu'il faut, effectivement, on est nul. Non, non, on a le droit aussi de dire... Je peux songer, c'est pas parce que mes parents m'ont appris que, auxquels on a véhiculé cette histoire de vie, que je peux pas m'en acquitter et penser différemment. Si vous avez des questions, elles sont tellement intéressantes, vos questions. Ça, j'ai sciemment laissé de la place parce que toutes les questions sont tellement riches et tellement importantes.
Merci, Michel.
Merci.